Le midi.
C'est moins 4 degrés sur Québec. Quelques flocons de neige. On pensait que le printemps, la semaine passée, était arrivé. Ben non, la neige, j'ai pas fini.
C'est surprenant, ça, aujourd'hui.
Je pense pas que les grattes sortent ce soir. Là. Il y a pas beaucoup de neige.
Ben quoi qu'à Québec, Yannick, tu le sais, ça se peut qu'on les sorte quand même. On a déjà vu ça.
On parle de 2 cm annoncés pour aujourd'hui, maximum de moins 2 degrés ce soir. Peut-être un 5 cm ce soir, Pascal. Fait que les grades vont effectivement peut-être sortir ce soir. De la neige, nous dit-on. Pour ce soir aussi, des températures stables à près de moins 1. Avec le refroidissement éolien cette nuit, ça va être une température ressentie de moins 8. Mardi, des averses, de la neige ou de la pluie. Accumulation de neige de 2 cm. En soirée, ce sera nuageux, minimum de 0. Un maximum de plus 4 pour ce qui est de demain. Et mercredi, ce sera nuageux. Avec un maximum de plus 5 degrés. C'est Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qui est au bout du fil. Salut Nick!
Salut, ça va bien?
Ça va très bien, ça va très bien. Je le demande à tout le monde depuis le début de l'émission. C'est quoi ton niveau d'excitation pour des élections fédérales actuelles?
Écoute, j'ai pas entendu des réponses des autres personnes, mais pour l'instant, je dirais que je suis assez content de voir ce qui se passe présentement. Les élections ont été déclenchées hier, si je me trompe pas, et on a déjà plein de baisses d'impôts qui sont déjà annoncées ou du moins qui sont promises par les principaux partis politiques. On a Carney qui a commencé déjà hier avec une promesse de baisse d'impôts de 1% pour le premier palier d'imposition. C'est un genre de sentiment de déjà-vu pour ceux qui se souviennent de ce qu'on a eu au Québec il y a à peine 2 ans. Mais en plus de ça, on a Pierre Poilievre qui aujourd'hui vient d'en rajouter une couche pour les conservateurs. De son côté, lui, il promet une baisse d'impôts de 2,25% sur le premier palier d'imposition. Donc, d'une part, il y en a un qui promet une économie pour une famille d'environ 825 $ par année. Poilievre lui promet 1 800 $ d'économie pour une famille à deux revenus. Donc, c'est quand même des belles annonces. On rajoute à ça.
C'est des belles annonces, puis je pense que tout le monde est content. Ah oui, on va sauver de l'impôt, mais dans le cas de Carney, moi, j'aimerais ça qu'il m'explique comment il va faire pour retrouver le manque à gagner, finalement. T'sais. Comment on va financer une telle baisse d'impôts alors que le Canada est dans le trouble comme pas possible? Puis là, le budget Gérard, je pense que c'est demain. Là. Le Québec aussi est dans le trouble.
Ben c'est ça. Ça, c'est peut-être la question la plus importante. C'est que des baisses d'impôts, c'est clair qu'on en veut, mais il faut aussi que ça se fasse avec une logique comptable. Où est-ce qu'on va trouver cette économie-là ou comment est-ce qu'on va la compenser? Dans le cas de Pierre Poilievre, il promet une plus grosse baisse d'impôts, donc c'est automatiquement plus intéressant. Mais au moins, il promet un plan pour y parvenir. Du moins, il dit qu'il va s'attaquer à la bureaucratie. Il rappelle, entre autres, qu'on a ajouté 108 000 fonctionnaires depuis que le Trudeau est arrivé au pouvoir. Il promet de faire le ménage là-dedans, dans les frais de consultants et même, il espère mettre en place un comité pour qu'à chaque fois qu'on mette en place une nouvelle dépense, ne serait-ce que c'est 1 $ pour 1 $. Donc, si on dépense 1 $ supplémentaire, il faut couper 1 $ à quelque part. Donc, il y a quand même une logique qui nous permet de financer des baisses d'impôts qui s'évaluent à pas loin de 13 à 14 milliards de dollars. C'est quand même pas rien. Mais Carney, pour l'instant, il promet un retour à l'équilibre budgétaire, il promet une baisse d'impôts, il vient de suspendre la taxe carbone, mais il n'a pas dit encore comment il allait effectivement financer cette baisse d'impôts-là. Où est-ce qu'il va compenser cette perte-là de revenus?
Je vais te poser la question qui tue. Parce que là, visiblement, quand on regarde les sondages là, pour ce qui est des élections fédérales, c'est les libéraux qui pourraient gagner demain matin. Là. Est-ce que ça intéresse vraiment les gens de savoir où est-ce qu'il va trouver cet argent-là pour nous faire des baisses d'impôts? Moi, j'ai l'impression que les gens vont juste voter pour lui, comme on a voté dans le temps pour Justin qui nous promettait des déficits. Là.
Ben c'est ça. Je me demande effectivement à quel point les gens sont intéressés à entendre parler. Pour l'instant, nous, à la Fédération, on voit ça comme une victoire parce que c'est des baisses d'impôts, c'est ça pourquoi on milite en premier lieu. Mais de l'autre côté, on peut quand même avoir des réponses de la part de Carney là-dessus parce que sinon, c'est une promesse en l'air qui est facile à faire. Puis on se rappelle aussi de ce qu'on a vu avec nous aux élections provinciales en 2022 au Québec. On a eu quand même 3 partis politiques qui sont arrivés avec une surenchère de baisses d'impôts. On avait la CAQ qui promettait 2,5%. On avait le PLQ 1,5%, puis on avait aussi le PCQ, les conservateurs, qui promettaient 2%. Donc, les élections en 2022 ont commencé sur le même pied. Mais finalement, les baisses d'impôts, on s'est rendu compte que autant que c'est populaire pour les contribuables, pour certaines certaines organisations, ben même à la limite dans certains médias, c'était décrié. En fait, on voyait les baisses d'impôts comme étant de quoi de négatif parce qu'on disait, on va perdre des revenus, tout ça. Ce qui est pas tout à fait logique, là, qui est applicable dans les circonstances parce qu'on connaît l'état des finances publiques au fédéral. Mais la question à savoir, c'est si Carney veut effectivement avoir un mandat légitime et avoir les deux mains sur le volant, ben, il doit nous dire exactement ce qu'il va faire une fois qu'il va être au gouvernement et quand il va vouloir faire ne serait-ce qu'une réduction de l'État, parce qu'il n'y aura pas le choix de réduire les dépenses à quelque part. Pour l'instant, il y a toutes ces mesures qui sont qualifiées d'impopulaires, bien, il n'y en a pas encore parlé pour l'instant. Mais au Québec, j'ai comme l'impression qu'on va se dire, franchement, nous, ce qui joue beaucoup, c'est le débat en français. Et là, je pense que le débat en français va avoir lieu le 17 ou le 16 avril prochain. Mais donc, je crois que c'est ce qui doit être déterminant, là, savoir s'il est capable de, effectivement, baragouiner en français aussi bien qu'en anglais.
Mais c'est fascinant parce que j'ai l'impression que l'économie déstabilise tous les partis politiques de tous les paliers en ce moment. C'est comme si on n'avait peut-être pas la force au sein même de chez nos politiciens pour faire un petit peu front à cette adversité-là économique. Mais Nicolas, moi, je t'écoute avec Yannick souvent, je t'écoute dans Mars au soir avec Yannick, puis je me demande, parce que la question initiale de Yannick, c'était est-ce que les élections fédérales t'intéressent en ce moment? Est-ce que vraiment dans ta position où à chaque fois tu dois aller trouver où est-ce qu'on dépense mal l'argent au fédéral, comment est-ce que les partis réussissent à nous couler de l'argent entre les doigts, tu as une facilité à être capable de te fixer par rapport à un parti?
Ben, écoute, c'est une bonne question parce que c'est sûr que je vois les élections aller, puis c'est comme, comment dire, une élection, on le sait, c'est une surenchère de promesses. Puis, tu sais, pour l'instant, il y a personne qui a vraiment fourni, à moins que je me trompe, un genre de cadre financier pour justement expliquer comment toutes ces dépenses-là vont se financer, comment ces promesses-là vont pouvoir avoir lieu. Fait que c'est sûr que de mon côté, je fais partie de ces personnes qui sont assez pessimistes. Donc, oui, c'est bien beau les promesses, mais j'ai hâte de voir quand elles vont être livrées. Puis c'est souvent, quand vient le temps d'être livré, que ces promesses-là se concrétisent à peu près pas, ou sinon, quand elles se concrétisent, c'est pas exactement comme c'était prévu. Donc, nous, dans l'optique actuelle, je suis quand même content de voir qu'il y a quand même des promesses qui vont dans le sens des contribuables, mais je peux comprendre pourquoi il y a un certain, pas un désintérêt, mais on voit pas tant d'engouement que ça pour l'instant au niveau des élections. Donc, on espère que ça va finir par gagner la population et que, éventuellement, les gens vont voter en conséquence des promesses réalistes qui
Hâte de voir, j'ai hâte de voir. Puis effectivement, les débats francophones, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont tous payer leurs 75 000 piastres à TVA?
Ben, il me semble que c'était la date limite aujourd'hui, à moins que je me trompe. Là, le 24 mars, c'était supposé être la date où est-ce que les partis devaient s'engager à verser leurs 75 000 $.
Sinon, Maxime Bernier s'offre aussi pour payer 75 000. Mais écoute, je vais juste souligner quelque chose. Là. Moi, j'aime bien le gars de Séjour sur Terre. Benjamin, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de 7 jours sur Terre, mais c'est une belle gang, travaille extrêmement fort. On a-tu vraiment besoin d'un grand réseau généraliste pour passer ce type de débat-là? On pourrait diffuser ça sur YouTube, exemple, puis ça aurait à peu près le même impact, sauf peut-être les plus vieux qui ne seraient pas capables de le voir. Mais à ce niveau-là, tu rediffuses simplement le feed YouTube. Là. Pourquoi il faut nécessairement mettre 300 000 ou 500 000 piastres de budget sur un show de télé alors que ça prend juste une caméra et un animateur qui va être capable de passer la rondelle en posant les questions aux divers chefs de parti? On est rendu là en 2025, là.
Ben oui, on est rendu là. C'est sûr qu'un média a le droit d'imposer un tarif et de dire, ben écoutez, si vous voulez venir faire votre débat chez nous, ben vous devez payer votre part. Mais d'un autre côté, t'as totalement raison. Les médias pourraient, ben n'importe quel média indépendant pourrait lui-même arbitrer un débat de ce type-là, puis le faire avec vraiment beaucoup moins de budget et peut-être aller rejoindre plus de personnes. Parce que je suis persuadé que si le débat à TVA est, par exemple, il est diffusé en même temps sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X ou Facebook, il va avoir une meilleure portée, voire beaucoup plus via les réseaux sociaux qui vont avoir plus de vues et plus de personnes qui vont être rejointes que si c'était fait à la télévision. Qu'on se dise, c'était la même chose au niveau des débats américains, c'est la même chose même en Europe présentement. Donc, la game a pas mal changé. Mais encore là, si des médias, si un média comme TVA impose un prix et que les partis politiques sont prêts à le payer, ben ainsi soit-il. Mais je pense qu'il devrait avoir plus de débats, puis à la limite, oui, il devrait avoir beaucoup plus de médias impliqués dans ce processus-là.
Je regardais les citations d'Éric Gérard qui va présenter son budget Gérard dans les prochaines heures. Il dit que pour pour son budget, c'est un budget qui va être très complexe dans un environnement extrêmement difficile et on a fait le choix de se concentrer sur l'économie tout en protégeant les services publics. Ainsi, il assure que le budget dévoilé ne contiendra pas de compression dans les services aux citoyens. Pas du tout. Il y aura même du réinvestissement dans les services sociaux et on souligne aussi que le retour à l'équilibre budgétaire, Nicolas, va se faire sur 5 ans. Toutefois, Éric Girard s'est fait plus évasif lorsque questionné sur une hausse du fardeau fiscal des Québécois. Il n'y a pas d'augmentation de l'impôt sur le revenu, ça c'est ce qu'il a tenu à mentionner, mais il n'a pas précisé si le Québec pourrait venir chercher de l'argent ailleurs dans le portefeuille des contribuables.
Ouais, bon, ben déjà, pour la fameuse ligne que tu m'as sortie, là, le retour à l'équilibre budgétaire sur 5 ans, ben ça fait quand même plusieurs années qu'on nous le promet, puis qu'à chaque fois, on repousse ça au calendrier grec. Fait que ça, j'ai très hâte de voir si le plan va être livré comme c'était supposé être le cas. Maintenant, il y a quand même 2 bonnes nouvelles qui t'as souligné, que c'est 2 très petites bonnes nouvelles, mais quand même, et aussi plutôt 2 balles qu'on évite, en fait, c'est que il y a 2 propositions qui ont fait beaucoup de bruit dans les derniers mois. Une qui venait de l'Institut du Québec, qui proposait d'augmenter la TVQ de 0,5%. Ce qui fait en sorte que le Québec se ramasserait avec la taxe sur les ventes la plus élevée au Canada. Et tu avais aussi la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université Sherbrooke qui, eux, proposaient une augmentation de la taxe provinciale sur l'essence. Dans les 2 cas, je suis très heureux de voir que le gouvernement refuse de s'engager en ce sens. Par contre, de voir que d'un autre côté, on va avoir un déficit historique encore plus élevé que celui de l'année dernière, parce que en 2024, 11 milliards, c'était historique, mais là, on va avoir pire cette année. Fait que j'ai très hâte de voir ça va être quoi le chiffre magique, mais aussi ça va être quoi le plan pour revenir à l'équilibre budgétaire si on refuse de faire ne serait-ce que des compressions dans la fonction publique d'une quelconque manière, parce que là, ce qu'on comprend, c'est que là, le gouvernement refuse de faire le ménage et va plutôt remettre ça sur 5 ans puis essayer d'aller chercher des revenus ailleurs ou de couper peut-être dans certains crédits d'impôt, c'est ce qui est laissé entendu. Ce que j'espère, c'est que les contribuables québécois ne seront pas encore plus lésés, c'est-à-dire qu'on a eu une augmentation du fardeau fiscal d'une quelconque manière qui soit annoncée demain, mais il y a quand même un drôle de contraste, parce qu'au fédéral, on promet des baisses d'impôts, on promet des nananes, on suspend la taxe carbone, on promet aussi d'éliminer la TPS pour les premiers acheteurs. Donc, tant Carney que Poilievre, il y a une surenchère de bonnes nouvelles pour les contribuables, mais à Québec, demain, on va avoir totalement l'inverse.
Mais à quoi ça sert de faire un putain de budget si on n'est pas capable de le respecter? Tu sais, moi, je me fais engueuler par la comptable, là. Ben pas celle que j'ai là, mais j'avais 25 ans, là, puis on avait fait un budget, moi et elle, que je devais respecter pour être capable de placer l'argent que je voulais placer, OK? Puis à la fin de l'année, j'ai pas réussi à rentrer dans ce qu'elle m'avait donné comme paramètre. Ben, elle m'avait dit, ben fais-en pas de budget si t'es pas capable de le respecter.
Elle a très bien fait les choses.
C'était un des conseils les plus avisés que j'ai eu de ma vie, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai un budget.
Puis parallèlement à ça, Yannick, tu sais, réajuster un budget, c'est une chose, mais là, on dirait qu'ils réajustent pour rentrer dans leur budget dans lequel ils rentraient plus. Tu comprends-tu mon point?
Oui, ben oui, mais je veux dire, c'est des déficits par-dessus des déficits, puis ils veulent pas couper. Puis là, ils nous disent, ben peut-être que quand on sera pas là, là, dans quelques années, ben là, ils vont l'ajuster, le budget, tu sais. Voyons donc, ils vont l'équilibrer dans 5 ans. C'est aujourd'hui qu'il faut que tu l'équilibres, ton budget, c'est pas demain, là.
Puis surtout qu'on s'entend que c'est très facile de dire on va l'équilibrer dans 5 ans quand t'as une élection qui s'en vient, puis peut-être que le ministre se présentera pas, ou peut-être que certains membres du gouvernement se présenteront pas. Donc ça si jamais il y a un changement de gouvernement, c'est-à-dire si le PQ ou le PLQ est élu en 2026, ben est-ce que le plan tient ou est-ce qu'on va se retrouver avec d'autres déficits, ou c'est littéralement envoyer la balle par en avant. Puis ben effectivement, je vous dis souvent que les fameux déficits, ben c'est de la dette qu'on garoche sur le dos des générations futures. Ben, c'est exactement ce qu'on fait à Québec, mais de manière un peu plus technique. Et c'est vrai que le fait qu'on propose un budget et qu'on ne soit pas en mesure de le respecter, ou même que les chiffres changent à chaque fois, ça se pose que le gouvernement nous présente un budget à chaque mois de mars. Mais en plus, il nous présente une mise à jour économique au mois, ben, généralement en novembre, pour l'automne. Et les chiffres diffèrent à chaque fois. Je pense qu'à chaque fois qu'Éric Girard a produit un de ses 6 budgets jusqu'à maintenant, demain c'est son 7e, ben, à chaque fois qu'il a présenté un de ses 6 budgets et une de ses 6 mises à jour économiques, les chiffres changeaient constamment. On était à côté de la plaque. Donc, ça rappelle pourquoi nous, on demande un directeur parlementaire du budget, parce qu'on a de moins en moins confiance à un ministre des Finances qui n'est pas capable de nous livrer un plan concret pour gérer les finances comme du monde. monde, puis aussi pour s'assurer à ce qu'on ne refile pas constamment aux générations futures une dette encore plus élevée.
Ah, puis watch bien la ligne de com demain, là, tout ça va être de la faute du gros orange l'autre bord, alors qu'on ne ressent pas encore le gros orange dans dans notre argent canadien.
Peut-être un peu de Justin Trudeau aussi là-dedans, sinon l'ancien gouvernement en place, même si ça fait des années.
Oui, c'est exactement le spin va être à l'entour de Donald Trump demain, même si la guerre tarifaire est officiellement pas encore commencée. Donc, le gouvernement va s'engager à faire des investissements préventifs. Quand on dit des investissements, mais c'est ça à surligner et entre guillemets, parce que c'est plutôt des paris que le gouvernement va faire encore une fois, soit avec des programmes, parce qu'on parle d'investir à travers Investissement Québec, puis on se souvient que la moyenne au bâton est pas très, très forte pour eux autres ces temps-ci. Mais d'un autre côté, on va donner encore plus de prêts à plusieurs entreprises dans l'optique où est-ce qu'ils en auront besoin pour faire face à la guerre tarifaire comme telle. Mais on se souvient que c'est beaucoup d'entreprises ont dépendu, entre autres, des prêts qui ont été faits durant la COVID. Et finalement, on s'est ramassé avec un nombre incroyable de faillites au Canada. En 2023, la moitié des entreprises qui ont fait faillite au Canada étaient au Québec. Donc, c'était entre autres à cause de ces programmes-là. Donc, j'espère que ce ne soit pas des pommes empoisonnées qu'on va faire, non seulement financées par les contribuables, mais qui seront difficilement remboursables par ceux qui vont en profiter, peut-être pas en profiter, mais qui vont devoir les prendre à cause des contraintes auxquelles ils font face. Mais dans tous les cas, j'espère qu'on ne va pas se retrouver avec, des dépenses hors de contrôle, autant qu'on le dit présentement. Puis c'est pour ça que demain, je vais être au huis clos, puis je vais pouvoir commencer directement sur place, puis vous ramener l'information aussi privilégiée que possible.
Hey, tu t'amènes à Québec, là?
Oui, je m'amène à Québec dans cette belle météo. J'ai hâte de me taper 3 heures de route là-dedans. Mais pour dire que je vais être là demain au huis clos dès 9 heures au Palais des Congrès, puis je vais en sortir vers 4 heures PM. Là, essentiellement, le huis clos, on y rentre, on n'a pas de téléphone et on n'a pas accès à Internet pour la totalité de la journée. Et après ça, quand le discours du ministre des Finances commence à l'Assemblée nationale, c'est là que le huis clos est levé et qu'on peut ensuite sortir des communiqués de presse.
Y a-t-il encore une table avec la nourriture, Nicolas? Puis est-ce que tu piges dedans? Tu dois pas être en accord avec cette table-là, toi?
Ah, de la table avec la nourriture, il me semble, à moi que je me trompe, j'ai payé mon ticket. Donc, je pense que la nourriture qui est fournie sur place est essentiellement payée par les participants.
OK.
Donc, c'est pas une dépense qui est assumée par les contribuables, heureusement.
Nicolas Gagnon, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite de passer une belle semaine puis une belle journée à Québec demain. Puis si tu restes ici pour mercredi, tu viendras nous voir en studio. Ça va me faire un plaisir de t'accueillir.
Ben, ça me fait plaisir, je vous fais signe dès que possible, puis je souhaite une bonne semaine à tout le monde.
Ouais. Puis on t'a trouvé bien cute hier de ne pas écrire à Pascal pour ne pas la déranger quand t'as envoyé tes sujets.
Ça m'a juste vraiment stressé ce matin.
Désolé. Bonne fête encore.
Salut. Merci, salut Nick.
Bye bye. Ben oui, Nick Gagnon qui ne voulait pas te déranger hier.
Mais qui m'a rien dit, il m'a jamais répondu, je suis comme, il peut pas.
Il m'envoie les sujets, puis j'étais content qu'il me les envoie, puis il dit, je te les envoie à toi parce que là, je veux pas déranger Pascal, là, c'est sa fête.
Il est tellement cute. Ouais, le pire, c'est qu'on se parle là, à 11h d'habitude, minuit même, le dimanche, on se parle pendant la soirée, on s'échange des trucs.
Ah ouais.
Fait que là, moi, ce matin, pas de même. Puis là, ce matin, je suis comme, crime, il me répond pas. Je l'appelle, il me répond pas. Je suis comme, il peut pas.
Vous envoyez des petites photos?
Mais la prochaine fois, tu me le diras, OK? Maintenant, Nick m'a écrit.
Oui.
Non, tu voulais pas me déranger, toi aussi, je suis sûr.
Oui, c'est ça.
C'est ça, hein?
C'est ça.
Ah, vous êtes des hommes de cœur.
Ouais, 1h21, on fait une courte pause et on vient.